RCF.
Vous êtes bien sur RCF Calvados Manche et nous écoutons désormais votre émission Soins et Spiritualité, une émission proposée par Marie Carlo et Vincent Fouque du Parc.
RCF.
Nous reprenons une deuxième conversation tout à fait passionnante avec le père Philippe Dauté. C'est donc cette deuxième émission. Le père Philippe Dauté est prêtre orthodoxe patriarcat de Roumanie et il anime depuis une trentaine d'années avec son épouse le centre d'études et de prières de Sainte-Croix en Dordogne. Il est délégué de l'église orthodoxe à l'écuménisme pour le Sud-Ouest. Il anime des retraites, des sessions sur la tradition philocalique des Pères du Désert et des colloques transdisciplinaires sur des grands sujets d'actualité du monde d'aujourd'hui. Alors, Père Philippe, nous avions, grâce à vous, la semaine dernière, abordé l'anthropologie avec le corps, l'âme et l'esprit, les interrelations entre le corps, l'âme et l'esprit, et vous aviez conclu avec l'introduction de cette dimension de la personne, on l'avait bien compris, qui correspondait au passage de l'individu, qui est l'individu social, à cette dimension fondamentale de la personne. Vous aviez évoqué, et en belle introduction pour cette semaine, l'idée du respect de la personne dans le soin. Est-ce que vous pourriez compléter cette introduction ?
Oui, avoir introduit la dimension de la personne permet maintenant de prolonger avec quelque chose qui est pris en considération, mais pas vraiment dans toutes ses implications, et c'est ça que je voudrais peut-être éclairer maintenant. Si on prend en considération la personne, qu'on est d'accord sur le respect de la dignité de chaque personne, c'est-à-dire de l'intégrité, de la cohérence personnelle de chacun, alors prendre soin du corps, c'est prendre soin du corps d'une personne. Donc on n'est pas simplement face à la réalité biologique de la personne, on est en relation avec quelqu'un qui peut être malade dans son corps ou qui peut avoir des dysfonctionnements dans son corps. Mais nous ne sommes pas là face au corps, nous sommes face à quelqu'un qui, évidemment, est incarné dans un corps. Donc ça veut dire que dans la relation soignant-soigné, on s'adresse à la personne dont on va traiter le corps, puisqu'on ne peut pas intervenir sur la personne sans son accord, sans sa coopération même, ce qui veut dire entrer dans une relation de bienveillance avec la personne pour qu'elle-même, elle coparticipe du soin qu'on va lui faire. Et si elle coparticipe, alors il y a beaucoup plus de possibilités, et en tout cas on mettrait des atouts positifs dans le sens de la guérison, car la personne va être mobilisée intérieurement pour effectivement s'associer aux soins qu'on jugera tout à fait appropriés pour elle, eu égard évidemment au diagnostic. Donc prendre soin du corps revêt une considération particulière ici, dans le sens où c'est le corps d'une personne. C'est aussi prendre soin de son histoire, c'est-à-dire sur le fait que les choses ne sont pas arrivées comme cela, donc c'est important qu'elle s'exprime sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là, sur son lieu d'hôpital, et dans la réalité dans laquelle elle est, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme cela, et ça fait rejoindre la dimension de quelles sont ses fragilités, quels sont les points qui ont fait que s'est développée plutôt telle problématique que telle autre.
Donc vous mettez en scène deux personnes, le soignant et le soigné. Vous mettez en scène le soigné. Nous avons bien compris que c'était cette personne malade, cette personne malade qui a un corps, qui a un psychisme, vous l'aviez évoqué la semaine dernière en anthropologie, mais qui a aussi dans ce psychisme cette influence de l'esprit qui fait qu'elle devient cette personne à part entière avec son mystère complet. J'ai bien compris que c'était comme ça que le soignant devait aborder le malade. Mais on vient de loin, on en a parlé, c'est que la plupart, malgré tout, des contraintes de la technoscience et des contraintes de l'économie de la santé font que les soignants ont en priorité l'obsession d'intervenir sur un corps, parfois même sur un corps, sans prendre en considération l'aspect psychique dont vous parlez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait dans cette relation au corps de la personne une harmonie au niveau que vous évoquez, c'est-à-dire une harmonie en respect de la personne malade, du fait et du regard du soignant lui-même?
Oui, je crois que cette question est très importante parce que il en va de la relation soignant-soigné, médecin-infirmière avec le patient, et nous savons comment l'action thérapeutique est quand même très liée à la possibilité d'une relation de confiance entre soignant et soigné. Et pour que cette confiance puisse être véritable, il faut un dialogue et en tout cas la prise en considération de la personne. Mais c'est une posture, c'est-à-dire ce qui est souvent mis en avant, c'est le fait que, eh bien, il y a beaucoup de travail à l'hôpital et qu'on n'a pas le temps. Mais en même temps, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que le fait de prendre en considération une personne, de se tourner vers quelqu'un, de lui sourire, de lui dire bonjour, ça prend pas plus de temps. C'est une question plus de disposition intérieure et de considération de qui on a en face que de temps qui serait nécessaire à cette réalité de la considération de la personne. Et puis d'autre part, de pouvoir entrer dans le fait que on ne peut pas simplement être un technicien du soin, mais réintroduire toute la dimension d'humanité. Or, la dimension d'humanité est bien liée à la dimension relationnelle, à la dimension du dialogue et au respect de l'autre, même s'il y a quelqu'un de compétent et le malade qui, a priori, n'a pas la compétence. Mais en même temps, il s'agit que le malade soit éclairé sur son état, parce qu'il pourra être beaucoup plus présent, et puis l'éclairer sur son état, c'est prendre en compte qu'il a une capacité d'intelligence, de compréhension, et qu'il est plus qu'un corps, même pas uniquement corps et psyché, mais qu'il a une capacité de conscience, de responsabilité, et c'est l'aider à lui-même intégrer les processus dans lesquels on va l'entraîner, par le fait qu'il puisse l'accompagner de sa propre conscience. Donc je crois que cette vision-là, elle est fondamentale. Ça se fait, ça se pratique d'une manière concrète. Quand il y a suffisamment d'humanisation dans les soins, c'est déjà une réalité qui est intégrée. Malheureusement, elle n'est pas généralisée, et c'est là où il faut rappeler ces choses.
Merci, Père Philippe, car ce que vous venez d'évoquer est au cœur de notre démarche chercheur de sens dans cette émission Soins Spiritualité. Notre intention, elle était effectivement, en allant au contact des uns et des autres, de les questionner sur quel était au fond le mystère qui émergeait de cette relation du soignant au soigné. On a compris toute l'année dernière que ce mystère est ce que nous appelons, nous, la notion de présence. De présence aux soins, vu dans un autre registre qui pourrait être celle d'une sorte de sentiment de familiarité entre le soignant et le soigné, comme vous l'avez évoqué. C'est une notion de respect, c'est inspiré par le dialogue dans une relation pleine d'humanité avec le malade. On va prendre un petit temps d'écoute musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième temps qui va être prendre soin de l'histoire de la personne. À tout à l'heure.
RCF.
Nous reprenons notre émission Soins spiritualité, RCF Calvados Manche, notre deuxième temps de cette émission avec le Père Philippe sur le respect de la personne dans le soin. Dans un premier temps, le Père Philippe nous avait bien expliqué ce qu'était prendre soin du corps du malade. Maintenant, on va l'écouter nous expliquer ce qu'il entend par prendre soin de l'histoire, qui est un élément également très important.
Prendre soin de l'histoire, c'est prendre soin de la trajectoire d'une personne. Donc nous avons parlé du respect de l'intégrité d'une personne, le fait que quand on soigne un corps, on soigne le corps d'une personne, et maintenant on soigne aussi quelqu'un qui est dans une trajectoire, qui rencontre des difficultés, des obstacles, ou qui est soumis à telle problématique pathologique. Et ces problématiques, elles n'adviennent pas comme un pur hasard par rapport à la réalité de ce que la personne vit. Donc c'est important de pouvoir parler avec la personne de ce qu'elle ressent à travers ce qu'elle vit là dans le moment, donc ce qui la concerne et le diagnostic qui a été posé, et qu'est-ce que ça vient, en quoi ça vient faire écho à l'intérieur, parce que nous verrons par là que bien sûr on peut appliquer une médication ou appliquer évidemment un processus thérapeutique, mais qu'il y a aussi peut-être des choses que la personne a à comprendre à l'intérieur d'elle-même par rapport à sa situation et à ce qui se présente à elle comme un événement particulier qu'est la maladie. Donc, prendre soin de l'histoire de la personne, c'est prendre soin de la trajectoire et respecter la personne dans ce qu'elle a à dire d'elle-même. Et c'est là où, en fait, ça demande une attention particulière et on ne peut pas, comme cela, naviguer d'un lit à un autre. Je crois qu'il s'agit d'être dans la considération du sujet, dans une qualité de présence à l'autre, d'avoir une écoute qui permette d'entendre au travers le récit de l'autre quelque chose qui va être un indicateur précieux pour ajuster les soins et puis peut-être pour bien comprendre aussi les effets de la personnalité afin qu'il y ait une dynamique de relation de confiance qui puisse s'instaurer et que la progression dans la prise en charge puisse être de telle manière que ça sera beaucoup plus heureux pour le patient lui-même mais même pour le médecin parce que au-delà du geste technique, il y a tout l'enrichissement de la relation avec l'autre et de la relation par l'autre même, je dirais, qui va pouvoir prendre sa place.
Oui, c'est une posture qui n'est pas banale. C'est une posture qui n'est pas habituelle dans le cadre, on pourrait dire, générique de la relation entre un médecin et un patient. Du reste, la terminologie de patient veut bien dire qu'il est patient. Le médecin, il est ordonnateur, il fait une ordonnance. Et on comprend que ces mots-là décrivent en tout cas une posture qui est malheureusement très habituelle, qui est une posture qui rend le malade passif, dépendant de la vision et de l'autorité du médecin. Or, vous venez à l'instant de nous faire comprendre que non, c'est pas ça. C'est que cet événement subit de la maladie qui vient d'être annoncé ou qui est traité actuellement doit être pour le malade l'occasion de réfléchir à ce qui se passe en lui à ce moment-là et comment est-ce qu'il intègre l'apparition de cette maladie dans son histoire globale de façon à ce qu'il puisse lui-même en tirer de leçons. Est-ce que j'ai compris ce que vous évoquez ?
Oui, tout à fait. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. En tout cas, vous retracez tout à fait en exactitude ce que j'ai voulu dire clairement. Et ainsi, à l'occasion de la maladie, il y a une relation soignant-soigné qui peut s'opérer au bénéfice des deux. Et je crois qu'il est important, effectivement, de... Encore une fois, de considérer la personne. Et si on considère la personne, on considère aussi la réalité de ce que la personne vit dans sa subjectivité. Pas uniquement dans l'objectivité de ce qui apparaît dans les analyses, mais aussi dans la subjectivité, c'est-à-dire que la personne, elle vit quelque chose au travers de la maladie et au travers de ce qui l'amène à l'hôpital. Et c'est important qu'on puisse entendre là une parole de la personne qui, par là, va nous donner des indications et va permettre de pouvoir, je dirais, va permettre à la personne de pouvoir participer à un processus thérapeutique par le fait que, eh bien, elle va accompagner de toute sa conscience et de toutes ses possibilités un processus qui la concerne en premier, qui est le passage d'une étape à une autre, révélé par l'épreuve de la maladie, où la maladie vient interroger le malade à un endroit particulier, et il a une réponse à donner. Il est important qu'il soit éclairé pour pouvoir au mieux donner cette réponse, pour intégrer des nouvelles informations qui sont là, en souffrance d'être intégrées par le malade.
On est là en plein dans la subjectivité, la subjectivité du malade qui est dans son épreuve. Il est le seul à vivre son épreuve, on le dit bien. Même il y a une phrase qui dit que il n'y a que la douleur des autres qu'on supporte bien. Hein. C'est une phrase classique. Donc cet enfermement dans la subjectivité et ce qu'on appelle l'événement de l'épreuve qui doit accompagner une transformation intérieure du malade. Mais, Père Philippe, vous avez évoqué aussi, si j'ai bien compris, une autre notion moi, qui me semble très intéressante et importante, c'est que dans cette subjectivité du malade, il y a l'intersubjectivité. Il y a la relation entre le médecin et le malade. Et je pense, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que dans cette relation d'intersubjectivité, le malade en sort différent, mais normalement le soignant aussi devrait en sortir un peu transformé.
Mais le soignant peut s'enrichir de la relation au malade. Combien de fois j'ai entendu des infirmières qui m'ont dit « mais en fait cette personne alitée, elle m'a beaucoup plus donné que je lui ai donné. » Et pourtant, eh bien, on sait bien, soit infirmier ou les aides-soignantes, le médecin dans une autre mesure, apporte tout le meilleur d'elle-même, tout de même, pardon, pour les patients. Et quand on entend dire par une infirmière, mais en fait, cette personne m'a beaucoup donné, ça veut dire qu'elle s'est enrichie de la relation et que cet enrichissement donne du sens à sa vie professionnelle. C'est-à-dire que non seulement elle a appliqué des soins, elle a fait du bien à quelqu'un, et ça c'est déjà une bonne chose, mais en plus elle s'enrichit d'une part, de l'échange et du partage qu'elle peut avoir la personne avec la personne qui est en souffrance, mais d'autre part aussi, eh bien, le comportement de la personne peut être édifiant pour le soignant et d'autre part, peut aussi venir toucher chez le soignant des points qui seront l'occasion de prise de conscience et peut-être d'une transformation intérieure.
Oui, là vous apportez, Père Philippe, un éclairage précieux aux difficultés que rencontrent actuellement les professionnels de santé, qui sont bousculés dans le temps technique, bousculés par les pressions administratives, bousculés par une organisation pressante, et qui pourraient peut-être, pour ces raisons-là, dire qu'elles n'ont pas le temps, mais vous l'aviez évoqué, ça n'est pas une bonne raison, car si, comme vous le disiez, la posture du soignant était une posture d'anthropologie ternaire pour lui-même, en résonance avec l'anthropologie ternaire de la personne qu'elle a soignée, eh bien, on aurait vraisemblablement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire un enrichissement personnel du soignant dans le soin qu'il prodigue au malade. On va écouter un petit moment musical et on va se revoir dans le troisième temps qui va être « Prendre soin de la liberté ».
RCF.
Notre émission Soins Spiritualité, RCF Calvados Manche, troisième temps de notre émission du jour avec le Père Philippe, respect de la personne dans le soin. Le Père Philippe nous avait parlé du prendre soin du corps, du prendre soin de l'histoire et on avait à ce moment-là et en conclusion admis à quel point une belle totale relation entre le soignant et le soigné pouvait être nourricière pour l'un comme pour l'autre. Maintenant, Père Philippe, vous allez nous parler du prendre soin de la liberté.
Lorsque nous parlons du respect de la dignité de chaque être humain, et je crois que c'est important de revenir toujours à cette notion, parce que nous sommes chacun concernés par, évidemment, la dimension de la personne, et nous aimerions que nous soyons respectés dans notre personne, c'est-à-dire dans notre intégrité, dans notre cohérence personnelle et dans notre altérité. Donc, si nous le souhaitons pour nous-mêmes, alors nous devons le souhaiter pour l'autre aussi. Et ce qui fait que dans la relation asymétrique qu'il y a entre un soignant debout dans son énergie et une personne alitée dans sa fragilité et qui est horizontale, et il y a quelque chose qui est dissymétrique et asymétrique ici, et que c'est pas parce que cette relation est asymétrique qu'on doit dévaloriser la dimension de la personne chez l'autre. Donc si on implique la dimension de la personne et la dimension inaliénable de la personne, alors il s'agit aussi de respecter la liberté de la personne. Et respecter la liberté, ça veut dire de prendre en considération ce que la personne peut assumer ou ne pas assumer des soins, et donc être dans ce dialogue, de voir si la personne est d'accord pour assumer le soin qu'on veut lui faire à ce moment-là, si elle est disposée ou pas disposée. Alors j'ai une expérience de ce point de vue-là dans les soins palliatifs, mais aussi j'accompagne des équipes soignantes dans une maison de retraite en particulier, pour l'application de la méthode Montessori pour le grand âge, qui est fondée sur la bienveillance dans les soins et sur le fait aussi de l'optimisation des soins par la qualité de relation et de présence qu'on a avec les résidents dans les maisons donc de retraite. Donc dans ce registre, eh bien, j'ai amené un peu un bouleversement dans la façon de procéder parce que les aides-soignantes autant que les infirmières sont formées pour appliquer des soins. Or là, il ne s'agit pas avant tout d'appliquer les soins, il s'agit d'abord d'entrer en relation avec une personne. Et d'autre part, de lui dire le soin qu'on veut lui prodiguer et lui demander si elle est disposée à ce qu'on lui prodigue le soin maintenant. Alors imaginez qu'au début que j'ai apporté ça, c'était une désorganisation, parce que si une personne dit non, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on doit l'accepter, mais ça veut dire que j'avais un organigramme et j'avais quelque chose qui était prévu comme un programme, et donc je dois passer à la chambre d'après pour revenir. Il faudra bien revenir faire le soin quand même à la personne, et donc ça bouscule. Eh bien, les infirmières, ça fait maintenant 4 ans que je vais dans cette maison de retraite, les infirmières m'ont dit que au début, et les aides-soignantes aussi, ça les a bousculées, mais maintenant elles voient un large bénéfice, parce que avant, eh bien, il s'agissait d'appliquer un soin à quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord, donc il n'y a pas le respect de la liberté de la personne. Alors que maintenant, elles sont toujours dans une coopération. Et donc, si la personne coopère, vous savez très bien que si la personne fait un effort pour se mettre assise, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de l'aider à s'asseoir. Mais si la personne ne participe pas à ce mouvement et à la limite refuse de s'asseoir, ça va être compliqué et ça va être une force, je dirais, un peu violente que de vouloir la mettre assise alors qu'elle n'a pas envie. Donc, elles ont dit que ça a changé complètement le climat du soin, parce qu'il s'instaure au fur et à mesure du respect de la liberté de l'autre, le fait d'un rapport de confiance. Et dans le rapport de confiance, tout le monde en trouve un bénéfice, et le patient, et le soignant. Et ainsi, le respect de la liberté, qui est lié au respect de la personne, amène à cette prise en considération où la personne soignée, quand elle est disposée, évidemment, est tout à fait prête à la coopération, ce qui change beaucoup le climat et toute l'ambiance des soins, et évidemment aussi le rapport avec la personne malade ou la personne âgée qui, à ce moment-là, étant prise en considération, va être beaucoup plus charmante avec les personnels soignants que si elle n'était pas contrarié une fois et contrarié deux fois et contrarié trois fois, eh bien, quelquefois, il y a des crises de colère, il y a des crises d'énervement qui compliquent beaucoup les soins.
Merci, Père Philippe. Donc, dans cette deuxième émission de cette semaine, on a vu que le respect de la personne dans le soin n'était pas qu'une vue de l'esprit. On pourrait dire que c'est une action de l'esprit, au sens propre du terme, dans la mesure où, dans une relation de personne à personne, il y a une transcendance du soin avec un rebondissement de bienveillance de part et d'autre. Et on l'a vu, une réorganisation parfaitement positive d'une structure ou d'un établissement de soins.
Je voudrais juste rajouter, c'est que, évidemment, dans cette manière de faire, eh bien, les personnels soignants trouvent du sens dans la relation aux soins par le fait que, respectant l'autre, elles se sentent respectées elles-mêmes. Et à ce moment-là, il y a une dimension d'humanité qui fait... qui renvoie à une image positive pour le soignant de lui-même dans l'action du soin.
Ce qui est un élément précieux quand on sait à quel point les personnels de soins sont en souffrance aujourd'hui, voilà, avec perte de sens et parfois avec des conclusions parfaitement dramatiques. Merci Père Philippe, on se revoit la semaine prochaine et on vous écoutera nous parler du sens de la maladie et de la guérison.
À la semaine prochaine.